Maurice Leblanc, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Deuxième nouvelle, Arsène Lupin en prison. Il n'est point de touriste digne de ce nom qui ne connaisse les bords de la Seine et qui n'ait remarqué, en allant des ruines de Jumièges aux ruines de Saint-Vendry, l'étrange petit château féodal du Malaquis, si fièrement campé sur sa roche, en pleine rivière. L'arche d'un pont le relie à la route. La base de ses tourelles sombres se confond avec le granit qui le supporte, bloc énorme détaché d'on ne sait quelle montagne et jeté là par quelque formidable convulsion. Tout autour, l'eau calme du grand fleuve joue parmi les roseaux et des bergeronnettes tremblent sur la crête humide des cailloux. L'histoire du Malaquis est rude comme son nom, revêche comme sa silhouette. Ce ne fut que combats, sièges, assauts, rapines et massacres. Aux veillées du pays de Caux, on évoque en frissonnant les crimes qui s'y commirent. On raconte de mystérieuses légendes. On parle du fameux souterrain qui conduisait jadis à l'abbaye de Jumièges et au manoir d'Agnès Sorel, la belle amie de Charles VII. Dans cet ancien repère de héros et de brigands habite le baron Nathan Cahorn, le baron Satan, comme on l'appelait jadis à la bourse, où il s'est enrichi un peu trop brusquement. Les seigneurs du Malaquis, ruinés, ont dû lui vendre, pour un morceau de pain, la demeure de leurs ancêtres. Il y a installé ses admirables collections de meubles et de tableaux, de faïences et de bois sculptés. Il y vit seul, avec trois domestiques. Nul n'y pénètre jamais. Nul n'a jamais contemplé dans le décor de ces salles antiques les trois Rubens qu'il possède, ses deux Watteau, sa chair de Jean Goujon et tant d'autres merveilles arrachées à coups de billets de banque aux plus riches habitués des ventes publiques. Le baron Satan a peur. Il a peur, non pour lui, mais pour les trésors accumulés avec une passion si tenace et la perspicacité d'un amateur que les plus madrés des marchands ne peuvent se vanter d'avoir induit en erreur. Il les aime, ces bibelots, il les aime âprement, comme un avare, jalousement, comme un amoureux. Chaque jour, au coucher du soleil, les quatre portes bardées de fer qui commandent les deux extrémités du pont et l'entrée de la cour d'honneur sont fermées et verrouillées. Au moindre choc, des sonneries électriques vibreraient dans le silence. Du côté de la Seine, rien à craindre, le roc s'y dresse à pic. Or, un vendredi de septembre, le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête de pont et, selon la règle quotidienne, ce fut le baron qui entrebâilla le lourd battant. Il examina l'homme aussi minutieusement que s'il ne connaissait pas déjà depuis des années cette bonne face réjouie et ses yeux narquois de paysan, et l'homme lui dit en riant: C'est toujours moi, monsieur le baron. Je ne suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette.
Sait-on jamais, murmura Cahorn. Le facteur lui remit une pile de journaux, puis il ajouta: Et maintenant, monsieur le baron, il y a du nouveau.
Du nouveau?
Une lettre, et recommandée encore.
Isolé, sans ami ni personne qui s'intéressât à lui, jamais le baron ne recevait de lettres, et tout de suite cela lui parut un événement de mauvais augure, dont il y avait lieu de s'inquiéter. Quel était ce mystérieux correspondant qui venait le relancer dans sa retraite?
« Il faut signer, monsieur le baron. »
Il signa en maugréant. Puis il prit la lettre, attendit que le facteur eût disparu au tournant de la route, et après avoir fait quelques pas de long en large, il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe. Elle portait une feuille de papier quadrillé avec cet en-tête manuscrit « Prison de la Santé, Paris ». Il regarda la signature « Arsène Lupin ». Stupéfait, il lut. « Monsieur le baron, il y a, dans la galerie qui réunit vos deux salons, un tableau de Philippe de Champaigne, d'excellente facture et qui me plaît infiniment. Vos Rubens sont aussi de mon goût, ainsi que votre plus petit Watteau. Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, les tapisseries de Beauvais, le guéridon Empire signé Jacob et le bahut Renaissance. Dans celui de gauche, toute la vitrine des bijoux et des miniatures. Pour cette fois, je me contenterai de ces objets qui seront, je crois, d'un écoulement facile. Je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom, port payé, en gare des Batignolles avant 8 jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Et comme de juste, je ne me contenterai pas des objets susindiqués. Veuillez excuser le petit dérangement que je vous cause et accepter l'expression de mes sentiments de respectueuse considération, signé Arsène Lupin. Postscriptum, surtout ne pas m'envoyer le plus grand des Watteaux. Quoique vous l'ayez payé 30 000 francs à l'hôtel des ventes, ce n'est qu'une copie, l'original ayant été brûlé sous le directoire par Barras un soir d'orgie. Consultez les mémoires inédits de Gara. Je ne tiens pas non plus à la châtelaine Louis XV, dont l'authenticité me semble douteuse. Cette lettre bouleversa le baron Cahorn. Signée de tout autre, elle l'eût déjà considérablement alarmée. Mais signé d'Arsène Lupin. Lecteur assidu des journaux, au courant de tout ce qui se passait dans le monde en fait de vol et de crime, il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur. Certes, il savait que Lupin, arrêté en Amérique par son ennemi Ganimard, était bel et bien incarcéré, que l'on instruisait son procès avec quelle peine. Mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à tout de sa part. D'ailleurs, cette connaissance exacte du château, de la disposition des tableaux et des meubles, était un indice des plus redoutables. Qui l'avait renseigné sur des choses que nul n'avait vues? Le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du Malaquis, son piédestal abrupt, l'eau profonde qui l'entoure, et haussa les épaules. Non, décidément, il n'y avait point de danger. Personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses collections. Personne, soit, mais Arsène Lupin. Pour Arsène Lupin, est-ce qu'il existe des portes, des ponts-levis, des murailles ? À quoi servent les obstacles les mieux imaginés, les précautions les plus habiles, si Arsène Lupin a décidé d'atteindre tel but? Le soir même, il écrivit au procureur de la République à Rouen. Il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection. La réponse ne tarda point. Le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la Santé, surveillé de près et dans l'impossibilité d'écrire, la lettre ne pouvait être que l'œuvre d'un mystificateur. Tout le démontrait, la logique et le bon sens, comme la réalité des faits. Toutefois, et par excès de prudence, on avait commis un expert à l'examen de l'écriture, et l'expert déclarait que malgré certaines analogies, cette écriture n'était pas celle du détenu. Malgré certaines analogies, le baron ne retint que ces trois mots effarants où il voyait l'aveu d'un doute qui, à lui seul, aurait dû suffire pour que la justice intervînt. Ses craintes s'exaspérèrent. Il ne cessait de relire la lettre. « Je ferai procéder moi-même au déménagement. » Et cette date précise, la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Soupçonneuse et taciturne, il n'avait pas osé se confier à ses domestiques, dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve. Cependant, pour la première fois depuis des années, il éprouvait le besoin de parler, de prendre conseil. Abandonné par la justice de son pays, il n'espérait plus se défendre avec ses propres ressources et il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris et d'implorer l'assistance de quelque ancien policier. Deux jours s'écoulèrent. Le troisième, en lisant ses journaux, il tressaillit de joie. Le réveil de Caudebec publiait cet entrefilet. Nous avons le plaisir de posséder dans nos murs, voilà bientôt trois semaines, l'inspecteur principal Ganimard, un des vétérans du service de la sûreté. Monsieur Ganimard, à qui l'arrestation d'Arsène Lupin, sa dernière prouesse, a valu une réputation européenne, se repose de ses longues fatigues en taquinant le goujon et la blette. Ganimard, voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Cahorn. Qui mieux que le retors et patient Ganimard saurait déjouer les projets de Lupin? Le baron n'hésita pas. 6 kilomètres séparent le château de la petite ville de Caudebec. Il les franchit d'un pas allègre, en homme que surexcite l'espoir du salut. Après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal, il se dirigea vers les bureaux du Réveil, situés au milieu du quai. Il y trouva le rédacteur de l'entrefilet, qui, s'approchant de la fenêtre, s'écria « Ganimard ! Mais vous êtes sûr de le rencontrer le long du quai, la ligne à la main. C'est là que nous avons lié connaissance et que j'ai lu par hasard son nom gravé sur sa canne à pêche. Tenez, le petit vieux que l'on aperçoit là-bas, sous les arbres de la promenade. En redingote et chapeau de paille? Justement. Ah, un drôle de type, pas causeur et plutôt bourru. » 5 minutes après, le baron abordait le célèbre Ganimard, se présentait et tâchait d'entrer en conversation. N'y parvenant point, il aborda franchement la question et exposa son cas. L'autre écouta, immobile, sans perdre de vue le poisson qu'il guettait. Puis il tourna la tête vers lui, le toisa des pieds à la tête d'un air de profonde pitié et prononça: Monsieur, ce n'est guère l'habitude de prévenir les gens que l'on veut dépouiller. Arsène Lupin en particulier ne commet pas de pareilles bourdes. Cependant, monsieur, si j'avais le moindre doute, croyez bien que le plaisir de fourrer encore dedans ce cher Lupin l'emporterait sur toute autre considération. Par malheur, ce jeune homme est sous les verrous. Et s'il s'échappe? On ne s'échappe pas de la santé. Mais lui, pas plus qu'un autre. Mais cependant, eh bien, s'il s'échappe, tant mieux, je le repincerai. En attendant, dormez sur vos deux oreilles et n'effarouchez pas davantage cette tablette. La conversation était finie. Le baron retourna chez lui, un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard. Il vérifia les serrures, espionna les domestiques, et 48 heures encore se passèrent pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller. La date approchait. Le matin du mardi, veille du 27, rien de particulier. Mais à 3 heures, un gamin sonna. Il apportait une dépêche. Aucun colis en gare Batignolles, préparez tout pour demain soir, signé Arsène. De nouveau, ce fut l'affolement, à tel point qu'il se demanda s'il ne céderait pas aux exigences d'Arsène Lupin. Il courut à Caudebec. Ganimard pêchait à la même place, assis sur un pliant. Sans un mot, il lui tendit le télégramme. « Et après ?» fit l'inspecteur. « Après, mais c'est pour demain !»« Quoi ?»« Le cambriolage, le pillage de mes collections !» Ganimard déposa sa ligne, se tourna vers lui, et les deux bras croisés sur sa poitrine, s'écria d'un ton d'impatience. « Ah ça, est-ce que vous vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide ?»« Quelle indemnité demandez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre ?»« Mais pas un sou, fichez-moi la paix !»« Fixez votre prix, je suis riche, extrêmement riche !» La brutalité de l'offre déconcerta Ganimard, qui reprit plus calme. « Je suis ici en congé, je n'ai pas le droit de me mêler. Personne ne le saura, je m'engage, quoi qu'il arrive, à garder le silence. »« Oh, il n'arrivera rien. »« Eh bien, voyons, 3 000 francs, est-ce assez ?» L'inspecteur huma une prise de tabac, réfléchit et laissa tomber. « Soit. Seulement, je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ça m'est égal. En ce cas. Et puis après tout, est-ce qu'on sait avec ce diable de Lupin? Il doit avoir à ses ordres toute une bande. Êtes-vous sûr de vos domestiques? Ma foi. Alors ne comptons pas sur eux. Je vais prévenir par dépêche 2 gaillards de mes amis qui nous donneront plus de sécurité. Et maintenant, filez qu'on ne nous voit pas ensemble. À demain vers les 9 heures. Le lendemain, date fixée par Arsène Lupin, le baron Cahorn décrocha sa panoplie, fourbit ses armes et se promena aux alentours de Malaquis. Rien d'équivoque ne le frappa. Le soir, à 8h30, il congédia ses domestiques. Ils habitaient une aile en façade sur la route, mais un peu en retrait et tout au bout du château. Une fois seul, il ouvrit doucement les 4 portes. Après un moment, il entendit des pas qui s'approchaient. Ganimard présenta ses 2 auxiliaires, grands gars solides, aux coups de taureau et aux mains puissantes, puis demanda certaines explications. S'étant rendu compte de la disposition des lieux, il ferma soigneusement et barricada toutes les issues par où l'on pouvait pénétrer dans les salles menacées. Il inspecta les murs, souleva les tapisseries, puis enfin il installa ses gens dans la galerie centrale. « Pas de bêtises, hein ? On n'est pas ici pour dormir. À la moindre alerte, ouvrez les fenêtres de la cour et appelez-moi. Attention aussi du côté de l'eau. » 10 mètres de falaise droite, des diables de leur calibre, ça ne les effraie pas. Il les enferma, emporta les clés et dit au baron « Et maintenant, à notre poste. » Il avait choisi, pour y passer la nuit, une petite pièce pratiquée dans l'épaisseur des murailles d'enceinte entre les 2 portes principales et qui était jadis le réduit du veilleur. Un Judas s'ouvrait sur le pont, un autre sur la cour. Dans le coin, on apercevait comme l'orifice d'un puits. Vous m'avez bien dit, monsieur le baron, que ce puits était l'unique entrée des souterrains et que, de mémoire d'homme, elle est bouchée.
Oui.
Donc, à moins qu'il n'existe une autre issue ignorée de tous, sauf d'Arsène Lupin. Ce qui semble un peu problématique, nous sommes tranquilles. » Il aligna trois chaises, s'étendit confortablement, alluma sa pipe et soupira. « Vraiment, monsieur le baron, il faut que j'aie rudement envie d'ajouter un étage à la maisonnette où je dois finir mes jours pour accepter une besogne aussi élémentaire. Je raconterai l'histoire à l'ami Lupin, il se tiendra les côtes de rire. » Mais le baron ne riait pas. L'oreille aux écoutes, il interrogeait le silence avec une inquiétude croissante. De temps en temps, il se penchait sur le puits et plongeait dans le trou béant un œil anxieux. 11 heures, minuit, 1 heure sonnèrent. Soudain, il saisit le bras de Ganimard qui se réveilla en sursaut. « Vous entendez ?»«
Oui. »«
Qu'est-ce que c'est ?»«
C'est moi qui ronfle. »«
Mais non, écoutez !» « Ah, parfaitement, c'est la corne d'une automobile. »« Eh bien ?»«
Eh bien, il est peu probable que Lupin se serve d'une automobile comme d'un bélier pour démolir votre château. »« Aussi, monsieur le baron, à votre place, je dormirai, comme je vais avoir l'honneur de le faire à nouveau. Bonsoir. » Ce fut la seule alerte. Ganimard put reprendre son somme interrompu, et le baron n'entendit plus que son ronflement, sonore et régulier. Au petit jour, ils sortirent de leur cellule. Une grande paix sereine, la paix du matin au bord de l'eau fraîche, enveloppait le château. Cahorn radieux de joie, Ganimard toujours paisible, ils montèrent l'escalier. Aucun bruit, rien de suspect. « Que vous avais-je dit, monsieur le baron ? Au fond, je n'aurais pas dû accepter. Je suis honteux. » Il prit les clés et entra dans la galerie. Sur deux chaises, courbées, les bras ballants, les deux agents dormaient.
« Tonnerre de nom d'un chien !» grogna l'inspecteur. Au même instant, le baron poussait un cri. « Les tableaux ! La crédence !» Il balbutiait, suffoquait, la main tendue vers les places vides, vers les murs dénudés, où pointaient les clous, où pendaient les cordes inutiles. Le Watteau disparu, les Rubens enlevés, les tapisseries décrochées, les vitrines vidées de leurs bijoux. Et mes candélabres Louis XVI, et le chandelier du régent, et ma Vierge du XIIe. Il courait d'un endroit à l'autre, effaré, désespéré. Il rappelait ses prix d'achat, additionnait les pertes subies, accumulait des chiffres, tout cela pêle-mêle, en mots indistincts, en phrases inachevées. Il trépignait, il se convulsait, fou de rage et de douleur. On aurait dit un homme ruiné qui n'a plus qu'à se brûler la cervelle. Si quelque chose eût pu le consoler, c'eût été de voir la stupeur de Ganimard. Contrairement au baron, l'inspecteur ne bougeait pas, lui. Il semblait pétrifié. Et d'un œil vague, il examinait les choses. Les fenêtres, fermées. Les serrures des portes, intactes. Pas de brèche au plafond, pas de trou au plancher. L'ordre était parfait. Tout cela avait dû s'effectuer méthodiquement, d'après un plan inexorable et logique. Arsène Lupin. Arsène Lupin, murmura-t-il, effondré. Soudain, il bondit sur les deux agents comme si la colère enfin le secouait et il les bouscula furieusement et les injuria. Ils ne se réveillèrent point. Diable, fit-il, est-ce que par hasard? Il se pencha sur eux et tour à tour les observa avec attention. Ils dormaient, mais d'un sommeil qui n'était pas naturel. Il dit au baron, « On les a endormis. »«
Mais qui ? » ?»«
Et lui, parbleu, ou sa bande, mais dirigée par lui. C'est un coup de sa façon. La griffe y est bien.
En ce cas, je suis perdu. Rien à faire.
Rien à faire.
Mais c'est abominable, c'est monstrueux.
Déposez une plainte.
À quoi bon ?
Dame, essayez toujours. La justice a des ressources.
La justice ? Mais vous voyez bien par vous-même. Tenez, en ce moment où vous pourriez chercher un indice, découvrir quelque chose, vous ne bougez même pas.
Découvrir quelque chose avec Arsène Lupin. Mais, mon cher monsieur, Arsène Lupin ne laisse jamais rien derrière lui. Il n'y a pas de hasard avec Arsène Lupin. J'en suis à me demander si ce n'est pas volontairement qu'il s'est fait arrêter par moi en Amérique.
Mais alors je dois renoncer à mes tableaux, à tout. Mais ce sont les perles de ma collection qu'il m'a dérobées. Je donnerais une fortune pour les retrouver. Si on ne peut rien contre lui, qu'il dise son prix.
Ganimard le regarda fixement.
Ça, c'est une parole sensée. Vous ne la retirez pas ?
Non, non, non. Mais pourquoi ?
Une idée que j'ai.
Quelle idée ?
Nous en parlerons si l'enquête n'aboutit pas. Seulement, pas un mot de moi si vous voulez que je réussisse. Et il ajouta entre ses dents :
Et puis, vrai, je n'ai pas de quoi me vanter.